Chapitre 31. Elsa. Combien de temps ça va durer? Combien de temps vais-je considérer chaque journée comme un obstacle à franchir? J'ai dit que j'étais d'accord pour accueillir toutes les émotions, pour ne plus éviter le chagrin. Je lui ai ouvert la porte. Et voilà qu'il ne me lâche plus. Je peux presque le voir. C'est une masse sombre, informe, qui s'agrippe à mes chevilles, qui écrase ma poitrine, qui enfonce ses griffes dans ma chair. Elle me suit partout, se faufile sous les portes, traverse les murs. Parfois je crois l'avoir semée, mais elle est là, tapie dans un coin, prête à déployer ses longs bras pour me broyer. Je dois vous faire une confidence, docteur. Quand j'étais petite, je me regardais pleurer dans le miroir. J'observais avec intérêt mon visage déformé. J'allais chercher les larmes partout où je pouvais. Mon bracelet turquoise perdu sur le chemin de l'école. La note de Sabrina meilleure que la mienne. La dame de la cantine m'obligeant à finir mes épinards. Les scénarios que j'élaborais entre Barbie et Ken étaient truffés de trahison et de souffrance. Je crois que j'associais à la douleur un aspect romantique. Au lycée, j'allais me coucher tôt en affirmant que j'allais lire. En réalité, je fermais les yeux et je me faisais des films. Celui qui a duré le plus longtemps concernait Loïc, dont je suis restée amoureuse anonyme pendant 2 ans. Dans le petit théâtre de ma chambre, j'étais victime d'un accident qui me laissait entre la vie et la mort. Les médecins étaient pessimistes, il y avait peu de chances que je survive. Loïc, qui ne m'avait jusque-là jamais regardée, accourait à mon chevet. La perspective de me perdre avait fait sauter ses œillères et lui avait révélé la vérité. Il était transi d'amour pour moi. Il inondait mon lit de larmes, implorait le ciel, négociait sa vie contre la mienne. Il me déclamait des promesses d'éternité, le tout sous le regard ému de tous les élèves du collège, dont j'étais tout à coup devenue le projet, la raison d'être. Selon mon humeur, la fin variait. Parfois, au terme de jours de combat acharné, mon corps finissait par capituler, l'électrocardiogramme devenait plat. Loïc assistait impuissant aux tentatives de réanimation, mais le médecin finissait par déclarer l'heure de mon décès. Écran noir. Ellipse. On retrouvait Loïc 30 ans plus tard. Il ne s'en était jamais remis, passait ses journées sur ma tombe, et un soir de pluie violente, il avait éteint le feu derrière la façade de ses yeux, comme dans la chanson « C'était l'hiver » de Cabrel, dont les paroles étaient justement, comme par hasard, épinglées au mur de ma chambre. Mais le plus souvent, j'ouvrais un œil, puis l'autre, parfaitement maquillé, il va sans dire, je souriais. J'avais recouvré mes esprits et tout entendu, les élèves applaudissaient, et Loïc m'embrassait à travers ses larmes en me jurant de m'aimer jusqu'à son dernier souffle. Mais cette fois, c'est pour de vrai. La douleur n'a rien de romantique. Je voudrais retrouver ma légèreté, disperser le brouillard qui m'encercle. Je voudrais ne plus m'endormir en voyant son visage, ne plus me réveiller en entendant sa voix. J'ai écouté un podcast sur le deuil. Un de vos confrères en décrivait les étapes inévitables. Je sais qu'il faut du temps. J'ai même appris qu'il y avait souvent une rechute autour du 10e mois, au moment où on croit s'en être sorti. Je n'en suis pas là. Pour l'heure, j'ai le sentiment que c'est chaque jour un peu plus douloureux, comme si l'espoir que ce ne soit qu'un cauchemar disparaissait peu à peu, ne me laissant aucune autre issue que la réalité. Il n'y a finalement pas grand-chose de définitif dans la vie. La mort l'est. Il me faut du temps pour accepter qu'il ne reviendra pas. L'accepter pleinement, de tout mon corps. Il me faut du temps pour comprendre que cet enfant sur les photos en noir et blanc, que ce fils turbulent, que cet élève fier de corriger les dictées de ses camarades, que ce petit frère câlin, que ce jeune homme qui faisait vrombir sa mobilette sous les fenêtres de sa mère, que ce père qui me berçait, qui m'appelait tout le temps, Que cet homme qui chevauchait son vélo pour aller travailler, que ce client qui faisait une blague chaque fois qu'il achetait une demi-baguette, que ce voisin qui promenait son chien 3 fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il tempête, que ce grand-père qui faisait des chatouilles comme personne, n'existe plus. Hier soir, il est arrivé quelque chose de très étrange. J'étais au téléphone avec ma mère, on parlait de lui. Elle aussi est très affectée, plus qu'elle ne l'aurait pensé. Tout à coup, je n'entends plus rien. Je comprends que la joue de ma mère a encore fait des siennes. Elle a la fâcheuse tendance d'appuyer sur la touche silence ou de mettre les appels en attente. Quand elle m'a reprise, sa voix tremblait. Elle avait appelé mon père. Sa joue, plus exactement, avait lancé l'appel. Il n'y avait aucune raison rationnelle. Il ne figure pas dans ses numéros favoris et elle ne l'avait pas eu au téléphone depuis des mois. Pourtant, pile au moment où on était en train de parler de lui, son visage est apparu sur son écran. C'est forcément un signe. Je suis prête à croire à tout, plutôt qu'à son absence.